Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut Rokaya.
Salut Grace.
Salut les auditorices.
Vous trouverez la suite de Kif Taras et les nouveaux épisodes à écouter sur votre plateforme habituelle de podcast.
Faites simplement une nouvelle recherche avec le titre Kif Taras chez Pseudo Radio et abonnez-vous à ce fil.
Bien sûr, les quatre premières saisons des épisodes de Kif Taras resteront toujours disponibles chez Binge Audio.
Merci pour votre écoute précieuse
et à bientôt.
Une production Binge Audio.
Bonjour Rokaya.
Bonjour Grace.
Bienvenue dans ce nouvel épisode de Kif Taras, le podcast qui saute à pieds joints dans les questions raciales.
Comme vous le savez, nous parlons sans complexe d'arabes, d'asiatiques, de roms, de noirs, de musulmans, de juifs.
Aujourd'hui dans Kif Taras, nous allons évoquer des mutations qui agitent notre société en lien avec l'écologie et comment ces questions se croisent avec la race et ses inégalités. Y a-t-il une récupération blanche, intellectuelle et bourgeoise, des discours écoféministes, animalistes ou encore de la promotion du véganisme ou du bio dans notre nourriture? Quels sont les enjeux publics et politiques portés par les défenseurs de l'environnement et de la justice climatique s'ils n'intègrent pas l'ensemble des rapports de domination? Tels sont les thèmes de ce Kif Taras que vous écoutez.
Nous avons invité pour en parler Myriam Bahafou, qui va nous faire part de son expertise sur la question. Salut Myriam.
Salut.
Salut.
Alors Myriam, tu es doctorante en philosophie féministe et selon tes termes, militante en période d'essai et écoféministe dissidente.
C'est ça.
C'est très prometteur. Tu t'intéresses particulièrement au rapport entre humains, humaines et animaux. Tu as signé la préface avec Julie Gorecki de la réédition 2020 de Le féminisme ou la mort de Françoise Daubonne aux éditions du Le passager clandestin et tu contribues à l'ouvrage collectif dirigé par Elsa Dorlin, Feu, abécédaire des féminismes présents, qui paraît en octobre 2021 aux éditions Libertalia, auxquelles j'ai également contribué.
Yes.
Et tu dans cet abécédaire, tu as eu la charge du terme écoféminisme.
Ouais, radical, écoféminisme radical.
Ah. Alors dans Kif Taras, on a un petit rituel, on demande à nos invités si il ou elle se situe sur le plan racial. Par exemple, je suis perçue comme une femme asiatique, Rokaya comme une femme noire. Est-ce que toi, Myriam, tu te situes et si oui, comment?
Moi, je me situe pas, en fait, je vois pas les couleurs.
Non, mais c'est là, genre, au revoir, Myriam.
Bonne journée. En fait, je me situais pas ou peu quand j'étais plus jeune, mais je pense que c'est le cas de plein de gens parce que j'ai évolué dans une banlieue populaire, en fait, où la plupart des personnes avec qui j'étais au quotidien étaient, en gros, noires ou arabes, quoi. Et en fait, donc, j'ai commencé à réaliser qu'il y avait une autre catégorie quand je suis allée au lycée. Et je parlais de cette toute petite anecdote, en fait, il y a quelques semaines, mais en fait, ça m'est revenu. Et donc, c'était un moment où, clairement, j'ai compris que j'étais située sur le plan de la race. Quand j'étais au collège, en fait, en fin de troisième, quand on va chez la conseillère d'orientation pour qu'elle vous oriente, a priori, sur un chemin radieux qui devrait contribuer à l'épanouissement de toutes vos capacités et vos compétences. Et elle me disait, moi je voulais en fait aller dans un lycée de centre-ville, donc un lycée assez bourgeois, blanc en fait, qui avait rien à voir avec le collège dans lequel j'étais à ce moment-là. Et donc j'avais fait part de ce choix-là, et elle m'avait répondu, oui mais vous pouvez pas aller là-bas, parce qu'en fait si vous, une personne comme vous, va là-bas, eux et elles vont toutes revenir de vacances en disant qu'elles ont été à New York, à Londres, et vous qu'est-ce que vous allez dire? Et en fait, là...
Mais ça n'a aucun... Enfin, c'est tellement fou.
Ah oui, non, mais... Et en fait, j'ai parlé de ça il y a deux semaines, quoi. Et je me suis rendu compte qu'à ce moment-là, c'était la discrimination à l'orientation, clairement. Et que c'était un des premiers moments de ma vie où je me suis perçue comme s'il y avait un « eux » et un « nous », quoi. Mm. Alors qu'avant, je percevais pas ça de cette manière-là, en tout cas pas si jeune nécessairement, quoi. Donc voilà. Mais je pense qu'il y a eu d'autres multiples occasions, mais celle-ci, elle était quand même assez marquante dans mon parcours intellectuel, en tout cas.
Et par curiosité, pourquoi tu voulais aller dans ce lycée?
Parce que en fait les conditions, enfin l'offre, l'éducation, le taux de réussite, etc. dans le lycée de secteur, enfin ce qu'on appelait le lycée de secteur, quoi, était complètement médiocre, quoi.
Ouais.
Et il y avait toute cette ce message et cette volonté de dire il faut s'extraire en fait, il faut s'extraire du quartier, il faut s'extraire de la banlieue. La réussite en fait c'est ça, et c'était perçu comme ça et par mes parents, ma famille et par moi-même en fait. Et finalement je suis assez contente d'avoir fait ça, quoi. Mais les prérequis, les conditions et les préjugés avant, quoi, ils m'avaient déjà bien refroidi, quoi. Donc je suis arrivée, je savais presque déjà à quoi m'attendre, en fait.
Et tu pars toujours pas en vacances à New York?
Toujours pas. J'ai a priori rien à raconter. C'est pour ça qu'on m'invite dans des podcasts, en fait.
Mais alors, par contre, tu vas à Rennes, parce que la dernière fois qu'on s'est, enfin, la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était dans un festival, le festival Dangereuses Électrices qu'on salue à Rennes l'année dernière, pile à peu près à la même époque. Et tu nous avais proposé un sujet pour Kif Taras, sur lequel on a, enfin, on a sauté sur l'occasion et ça a pris un peu de temps pour organiser tout ça. Et tu nous as expliqué, enfin, tu nous as dit, dans tes engagements professionnels, tu as constaté le tracé d'une ligne raciale dans les sujets qui nous intéressent aujourd'hui, donc, et qu'on va définir ensemble, hein, parce que c'est écoféminisme, véganisme, animalisme, bouffe bio, tout ça, c'est assez large et en même temps aussi très précis. Toi, tu as observé, tant dans le domaine académique, par exemple, dans l'éthique animale ou la philosophie environnementale, que militant. Qu'est-ce que tu en as tiré comme analyse de ce constat ?
Ce qui est intéressant ou original, en tout cas, je crois, dans mon parcours de meuf issue de l'immigration nord-africaine, voilà, avec pauvre, voilà, plein de problématiques. Le premier combat politique, la première lutte, en fait, qui m'a attirée à mon niveau, c'était l'antispécisme. Alors qu'a priori, enfin, je viens pas du tout d'une famille végane, végétarienne, engagée là-dessus, écolo, enfin, qui ne prenait pas en tout cas ces étiquettes-là. Donc, je crois que j'ai quand même un attachement un peu affinitaire. Enfin, il y a quelque chose de, qui me parle en fait dans cette lutte, parce que depuis hyper jeune, moi, je suis devenue végétarienne. Je devais avoir 19 ans, quoi. Enfin, 19, 20 ans. Bon, après, j'ai fait des allers-retours, etc. Mais très vite, en fait, ça m'a apparu comme une évidence, sans forcément le connecter à des mouvements politiques, ou sans m'inscrire, en tout cas, dans des groupes, et même des revendications, en fait. C'est juste que quelque chose que je sentais. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, trop cool, je vais aller voir des gens qui me ressemblent, et on va essayer de parler de ça. Mais, en fait, les sphères antispécistes, véganes, slash animalisme, on pourra peut-être faire un petit débroussaillage des définitions après, mais en tout cas, ces sphères-là, et les sphères écolo par la suite, parce que moi j'étais d'abord plutôt liée à ce truc à animaux, animalité, avant d'être plus dans l'écologie. En fait, je côtoyais énormément de personnes qui semblaient se préoccuper de choses qui étaient complètement différentes de moi, quoi. Enfin, ou du moins, à aucun moment je me sentais incluse en fait dans la façon et dans les discours dont la lutte était présentée. Donc en fait, c'est toujours moi qui devais faire les efforts, et ça passait aussi par le langage, pour apprendre les bons termes, pour avoir les bonnes définitions, pour savoir comment passer en fait dans ces milieux-là. Et ça, ça m'a assez vite, j'ai mis un an ou deux quand même, donc j'ai bien persisté, fait comprendre qu'on parlait pas de la même chose, en fait. Et c'est ça que j'aimerais bien aborder ici, en fait, c'est de dire, bon, moi, je me suis spécifiquement centrée sur le véganisme, mais parce que, pour moi, c'est une porte d'entrée qui parle, en fait, de tout le reste. C'est que quand on parle de véganisme, en fait, quand on parle de véganisme blanc, enfin, moi, je dis véganisme blanc, il y a des personnes qui disent véganisme blanc, évidemment, les véganes blancs se disent juste vegan. Mais, of course. Mais quand on parle de ça, en fait, c'est pas du tout la même définition, en fait. On n'a pas du tout la même définition, on parle pas de la même chose. Du coup, en fait, peut-être de recadrer pour dire de quoi on parle, en fait, quand on parle de véganisme. Et c'est qu'en sortant, justement, de ces sphères blanches, de ces mouvements militants blancs, mais aussi bourgeois, mais aussi hétéros, mais aussi, enfin, voilà, on peut rajouter plein de choses après, que j'ai pu, en fait, réaliser que ma façon de considérer les animaux, ce truc-là que j'avais senti à 18-19 ans, en fait, avait tout à voir avec ma condition spécifique de, justement, meuf racisée, habitant dans un quartier, etc. Et qu'au lieu de le rejeter, en fait, je devais au contraire l'injecter dans ma façon, en fait, de pratiquer cette lutte-là. Et c'est... Voilà. Et je crois que j'aimerais bien qu'on parle de ça aujourd'hui, enfin, d'une manière à ne pas centrer, en tout cas, le discours antispéciste ou écolo, etc., sur la blanchité. Parce qu'en fait, on vit dans une... On est saturé en fait de ça. On est saturé du message selon lequel l'écologie, le véganisme, c'est quelque chose autour de la blanchité. Ça se joue en termes de blanchité. Et moi, et plein d'autres personnes en fait, on n'est pas d'accord pour ça vis-à-vis de ça. Et je pense qu'il y a vraiment de réelles propositions décoloniales et antiracistes à ce niveau-là qui sont complètement invisibles, quoi.
Alors t'inquiète pas, dans ce podcast, généralement on ne se centre pas sur la blanchité.
A priori, oui.
D'ailleurs, ça nous est beaucoup reproché. Bah justement, tu as évoqué pêle-mêle plusieurs termes. Est-ce que tu pourrais justement revenir sur cette terminologie d'écoféminisme radical, d'animalisme, antispécisme, de véganisme? Qu'est-ce qu'on entend par ces termes? Et justement, comment ils se sont inscrits dans la sphère publique en ne tenant compte que de la position blanche et bourgeoise dominante?
Je vais commencer par... Alors moi, je me définis comme écoféministe. Je ne sais pas encore exactement ce que je mets derrière ce terme, mais en tout cas, je sais que c'est un terme qui me parle. En fait, moi, la façon dont j'ai connu le... où je suis rentrée dans le... J'ai pas connu, en fait, le féminisme directement par un biais très lisse, institutionnel, en termes de droit, en tout cas, voilà, égalité, homme-femme. Moi, ça n'a pas été ça, ma grammaire féministe, en fait, du début. Je suis directement rentrée par l'écoféminisme, en fait. Moi, les premiers textes que j'ai lus qui étaient... qui ont résonné en moi, c'était les textes du recueil d'Emilie Hache, Écoféminisme, qui est sorti en 2016, je crois. Et où là, j'ai été complètement retournée, en fait, par ces liens qui étaient faits entre des corps minorisés de genre, des corps de femmes, des corps animaux, le corps de la terre, des territoires. Enfin, voilà, il y avait quelque chose de très interconnecté, très mélangé et plus flou, en fait, que les catégories très strictes du féminisme, en fait, blanc, qui était le féminisme, enfin, qui est toujours le féminisme mainstream, en tout cas. Du coup, l'écoféminisme, en fait, moi, il m'a parlé directement parce qu'il parlait d'autre chose que, justement, une catégorisation fixe, en tout cas, des termes hommes et femmes et des relations, notamment économiques, en tout cas, qu'il pouvait y avoir entre ces deux catégories. Donc, en tout cas, à mon niveau, l'écoféminisme, si je devais donner une espèce de définition comme ça, c'est né à partir de luttes. Enfin, je pense que c'est très important de dire que c'est un mouvement qui naît à partir de luttes, de mouvements, de rassemblements, de groupes, et non pas de la théorie, parce que nous, en fait, en France, on l'a reçu sous forme de théorie. Donc c'est un mouvement de lutte, enfin des mouvements de lutte dans différentes parties du monde, plutôt dans des pays qu'on dirait du sud globalisé, quoi. Donc en fait des groupes de femmes principalement qui luttent en fait contre des projets coloniaux, mortifères et patriarcaux. Donc type extractivisme, déforestation, artificialisation, bétonisation des sols. Et en fait, de fait pour moi, l'écoféminisme est de fait décolonial en fait, parce que il naît vraiment à des endroits de contestation, de révolution en fait contre un ordre. Et qui est un ordre où plusieurs intersections, enfin plusieurs oppressions, en fait, se chevauchent, quoi.
Donc en fait, c'est la protestation contre les mouvements de prédation coloniale, notamment, ou postcoloniale, enfin postcoloniaux, notamment des entreprises ou d'États qui vont, attaquer en fait des ressources naturelles et d'une certaine manière générer une mobilisation, notamment des femmes.
Exactement. Mmh. Et ces femmes-là, donc elles luttent de manière évidente contre les projets coloniaux, néocoloniaux, enfin on peut dire comme on veut, contre le capitalisme aussi, parce qu'en fait, ces appropriations de terres se font pour faire émerger ou pour développer des énormes méga-projets, en fait, qui servent aux pays du Nord, aux pays occidentaux. Et elles le font aussi contre un ordre patriarcal, en fait. Parce que typiquement, quand il y a des grands projets comme ça, d'oléoduc, par exemple, aux États-Unis, ou en Amérique latine, des énormes monocultures, ou du moins des projets extractivistes, ben, en fait, on a une flopée d'hommes qui viennent, en fait, pour travailler sur ces projets-là. En fait, non seulement les sols sont détruits, l'environnement est détruit, il y a des dommages, en fait, qui sont immenses, mais aussi en termes humains, en fait, on a une recrudescence de viols, on a une recrudescence d'agressions, on a des points d'eau, en fait, qui sont détruits. Et du coup, les femmes, comme c'est les femmes qui sont principalement en charge d'aller chercher l'eau dans les communautés, elles doivent aller plus loin, donc elles ont plus d'efforts à faire. Donc voilà, en fait, ça modifie tout un écosystème humain, animal et tout le reste, végétal, etc., dans ces endroits qui sont tout à fait invisibles, en tout cas, dans la façon dont l'écoféminisme est présenté aujourd'hui en France, quoi. Et c'est ça, en fait, c'est pour ça que c'est intéressant de redéfinir, en fait, de quoi on parle quand on parle d'écoféminisme.
Et de revenir à la source, en fait.
Exactement, aux sources, en tout cas, plurielles. Et puis après, il y a eu une théorisation du mouvement, en tout cas... aux États-Unis avec les antinucléaires aussi. Enfin voilà, il y a eu. Moi j'aime bien dire que. En fait, j'aime bien parler des écoféminismes parce que l'écoféminisme, en fait, ça veut a priori rien dire. Et la façon en tout cas dont il est arrivé en France, ça a vraiment été pour moi de l'ordre un peu intellectuel, quoi. Et j'en parle et je suis à la fac et je fais un doctorat dessus. Enfin, tu vois, c'est pas. Et je constate une énorme partie de personnes qui font des mémoires et tout. Et c'est trop bien d'étudier l'écoféminisme, mais. C'est pas sa nature, c'est pas son but, il devrait pas trop exister comme ça, en fait, a priori. Donc plutôt là, j'essaye de m'intéresser à comment dans les luttes, en fait, ça, aujourd'hui, là en France, en tout cas à mon niveau, comment moi je le vis, et en quoi il s'incarne dans mes luttes, en fait, au quotidien. Et moi, en fait, j'ai accédé plutôt par cette, encore une fois, ce truchement-là de l'animalité, quoi. Donc moi, je suis rentrée directement dans les écoféminismes, et plus spécifiquement celui autour des animaux, du véganisme, etc.
Et l'antispécisme que tu as évoqué tout à l'heure, qu'est-ce que ça recouvre comme combat?
Alors moi j'ai du mal à dire antispécisme, en fait, je crois. Enfin je le dis, mais je crois pas trop que je m'identifie. Enfin, c'est compliqué. Moi je me dis plutôt végane, je crois. Parce que végane pour moi c'est aussi une pratique, en fait. Et l'antispécisme je le vois un peu comme une idéologie. Ce qui est pas nécessairement mauvais, mais... Et antispécisme, encore une fois, moi je suis très très formatée en fait avec toute une lecture de Mec Blanc de l'éthique animale que j'ai bouffé depuis mon master quoi. Et j'ai beaucoup de mal en fait à me dire que l'antispécisme peut être un terme réapproprié ou qu'on peut essayer de parler d'autre chose que de droit en fait. Pour moi l'antispécisme parle beaucoup de droit, de sentience, de voilà, c'est une vision assez scientifique je dirais de en quoi les animaux ou les espèces non humaines en fait devraient avoir le droit d'être considérées comme entre guillemets égales ou en tout cas avec un même niveau de dignité que l'espèce humaine. Mais ça me pose des problèmes parce que ça reste dans un registre du droit, ça parle beaucoup en termes d'individus quoi. Ça repose sur une conception du droit qui est assez libérale en fait et qui se base sur l'individu et pour moi qui est très occidentale. Alors qu'à l'inverse, au contraire, les définitions antispécistes qui se baseraient sur des communautés ou du commun ou comme je disais des choses assez interespèces, je les vois plus dans des philosophies en tout cas des pays des Sud quoi, mais qui du coup ne s'appellent pas nécessairement antispécistes. Et pour la définition beaucoup plus générique, c'est l'antispécisme, en tout cas en général, c'est la domination de l'espèce humaine sur la totalité en fait des autres, mais plutôt on parle des animaux à ce moment-là, par l'exploitation dans le divertissement, la nourriture, l'expérimentation médicale, etc. Donc ça serait la définition la plus basique en fait de l'antispécisme, c'est-à-dire être contre en fait ce système-là.
Alors l'un des sujets qu'on voulait évoquer avec toi, c'est que souvent moi j'ai le sentiment qu'être écolo c'est un truc de blanc ou de blanche. Par exemple, une de mes tatas, quand je vais chez elle, je vois que elle trie pas ou peu ses déchets, et j'entends souvent parler tu vois, de l'usage abusif des sacs plastiques dans la street food en Asie, en Chine, enfin l'Asie du Sud-Est. Et évidemment, tout ça, c'est des constructions. Hein. Ma tata, elle jette rien. Hein, et elle conserve tous ses contenants. Elle les réutilise jusqu'à leur décès, tu vois. Elle était écolo avant que ce soit cool d'être écolo. Et toi, tu as écrit, chaque fois qu'il est fait mention de l'Afrique, de l'Amérique latine ou de l'Asie, c'est pour exprimer un manque, un retard et un échec. Donc comment est-ce qu'on ne se laisse pas endormir par ces narrations qui sont d'apparence antagonistes et qu'on réconcilie ça dans notre quotidien?
Je pense que c'est encore une fois de visibiliser et de donner... de la place en fait à des récits qui ne se disent pas nécessairement écolo. Et je pense qu'on rencontre le même problème avec le féminisme en fait,
complètement,
où en fait on a des mouvements de femmes contestataires, révolutionnaires, de minorités de genre aussi qui font des choses, et pour nous enfin on aurait hyper envie de mettre un label féministe dessus, mais qui elles nous disent en fait non, parce que pour nous le féminisme en fait c'est une construction occidentale et on se retrouve pas dans ce terme. Donc ça pose vraiment la question de nous à notre place, parce que j'ai beau être issue de l'immigration nord-africaine, etc. Je suis née en France, en fait, et je bénéficie du privilège de vivre en Europe avec tout ce que ça m'apporte, quoi. Et donc, j'ai aussi un cadre de pensée, en fait, qui est issu majoritairement de l'université française, quoi. Donc, c'est pas hyper décolonial. Enfin, quoique, apparemment, on représente une menace à l'université en ce moment. Donc, brace yourselves, les colonies are coming. Mais en tout cas, pas à mon niveau. J'ai pas encore intégré toute cette déconstruction, en tout cas, intellectuelle. En tout cas, je suis en train de le faire. Du coup, ça pose vraiment la question de se dire quel droit, enfin quelle étiquette, quel label, comment on peut définir en fait des pratiques qui de fait en fait pour moi sont féministes ou sont écolo, typiquement garder jusqu'à épuisement, jusqu'à la mort des objets, c'est complètement une pratique en fait qui se fait dans les classes populaires, mais depuis très longtemps, de faire de la comment dire de la gestion commune en fait ou communautaire de vêtements, de nourriture, de soins, de travaux, enfin tout ça en fait. C'est des blancs qui font de la permaculture et qui vivent en éco-lieu, qui nous disent aujourd'hui que c'est trop cool, mais en fait on le fait depuis des centaines d'années quoi. Et personne n'est venu nous dire que c'était cool en fait. Donc il y a vraiment un truc de mainstreamisation en fait sur des pratiques et des attitudes qui tout à coup deviennent tout à fait valorisées et qui ont un sens politique parce qu'elles sont portées en fait par des personnes blanches qui encore une fois ont le vocabulaire et font comme si ont le vocabulaire, ont le langage, savent en parler avec des définitions et des termes qui sont tout à fait ancrés dans nos codes en fait occidentaux, mais qui par là même en fait silencient complètement, invisibilisent complètement ce qui s'est fait, je veux dire avant mais même encore aujourd'hui quoi. Et pour moi ça marche avec le terme écolo, ça marche avec le terme vegan aussi, antispéciste, c'est pour ça qu'en même temps je trouve que ces termes ils sont hyper intéressants à manier et à utiliser, mais en même temps il y a plein de choses qui recouvrent pas quoi. Quand tu dis spécisme ou antispécisme en fait voilà, moi je pense à quelque chose qui n'est pas du tout de l'ordre de l'historicité des relations humaines et animales à partir du point de vue de la race par exemple, ou qu'est-ce que l'espèce en fait, qui sont les sous-espèces, qui sont les non-espèces, parce que et là pour le coup on parle en fait d'une analyse plus systémique et plus globale et historiquement beaucoup plus long que juste on a inventé le terme vegan dans les années X parce que on s'est dit qu'en fait c'était pas cool de consommer des animaux en Europe après X années de colonisation où on avait absolument détruit tous les écosystèmes en fait qui fonctionnaient depuis des millénaires sur place quoi.
Et cette invisibilisation, c'est très difficile de la combattre parce que, enfin, toi, tu m'as recommandé pour la préparation du podcast le podcast L'Afro-écologiste, qui est un podcast qui se décrit comme parlant d'écologie et de véganisme d'un point de vue décolonial et afrocentrique. Et c'est vrai que, enfin, pourtant, je sais que ça existe, hein, mais moi aussi, quand je parle, je pense à véganisme, je pense à une femme ou un homme, hein, blanc, blanche, qui est très visible sur les réseaux, qui, voilà. Moi, j'arrive, même moi, enfin, tu vois, je me dis, j'arrive pas à faire coïncider, tu vois, mais des choses que sur lesquelles je mets le doigt, mais que je suis aussi absorbée par ce mouvement qui est celui de mon quotidien.
Justement, mais en même temps, tout à l'heure, tu évoquais, quand tu parlais d'antispécisme, tu disais qu'il fallait l'inscrire aussi dans la fabrication, notamment de la race et de la stratification, en fait, qui s'est faite au sein même de l'espèce humaine. Et en même temps, c'est vrai que, moi, j'ai souvent été dérangée par le fait que des antispécistes blancs, en fait, fassent le parallèle entre l'esclavage humain, entre humains et la condition animale. Non pas parce que je considère que la vie animale soit de moindre valeur, mais que je sais quelle considération on a pour les animaux en France et que c'est, en fait, sont des personnes qui vont jamais s'exprimer sur la mémoire de l'esclavage, mais qui vont utiliser cette mémoire-là pour dire, regardez ce qu'on faisait il y a 150 ans, et là on est en train de faire la même chose aux animaux sans intégrer la parole des gens dont les ancêtres ont vécu ça et en instrumentalisant en fait une image hyper violente dont le résultat en fait est encore perceptible socialement. Et du coup c'est ça aussi qui peut rebuter. Moi je sais que j'ai vu des gens qui étaient hyper agacés en fait de voir que la mémoire de leurs ancêtres était manipulée pour dire regardez, on a fait la même chose avec les animaux, alors que ça venait de personnes qui n'étaient pas concernées par cette histoire là
Oui, je partage complètement de mon point de vue. Moi, c'était, je crois que ça rentre vraiment dans ces trucs de stratégie du choc, en tout cas, de choc visuel, de choc comme ces vidéos de L214. Enfin, voilà, moi, je crois qu'il y a eu tout un mouvement en fait où, pour dénoncer le spécisme en cours et l'exploitation animale qui est toujours immense. Il y a eu une volonté en fait de produire de l'image très choquante, très. Mais c'est complètement, en l'occurrence, c'était fait par des groupes complètement blancs, en fait, qui sont des groupes mainstream vegan et antispécistes et qui existent toujours aujourd'hui. Et qui ont mobilisé, en fait, comme tu dis, des images de corps esclavagisés, de personnes racisées, même au global, parce que j'ai vu aussi j'ai vu des femmes dans des rizières être complètement détruites par le travail, etc. Et à côté, mettre un animal qui est en train de tirer. Hein, et je comprends la logique et ça doit marcher. Enfin, ça marche, évidemment, ce genre. Enfin, ça marche dans l'esprit, en tout cas, ça crée clairement un choc. Moi, en tout cas, ça me l'a fait. Moi, je reconnais vraiment qu'à ce moment-là, où j'étais peu politisée par ailleurs, parce que c'était ma première entrée dans la politique, ça a marché. En revanche, c'est exactement ce que tu as dit, en fait, c'est que c'est des personnes qui sélectionnent, en fait, peuvent se permettre d'avoir le choix dans la ribambelle de références historiques que l'histoire, en fait, peut leur offrir, et prennent, en fait, piquent un peu par-ci, par-là, des images qui leur semblent tout à fait collées à la réalité des animaux qu'ils ont décidé, en fait, de défendre aujourd'hui. Parce qu'il y a vraiment ça, en fait, dans un engagement vegan blanc, en fait, il y a un truc de choix, en fait, où je choisis de m'engager dans l'écologie, je choisis de m'engager dans le véganisme, et en fait, contrairement, en tout cas, à des personnes comme vous et moi, en tout cas, je crois que l'antiracisme, on peut choisir de s'engager en produisant du contenu, etc., mais en fait, c'est dans notre corps, quoi. Enfin, je dis souvent, en fait, je sais même pas si je suis militante, ou alors je suis militante depuis le début, en fait, quand t'es née pauvre, racisée, minorité de genre, en fait, go, quoi, ta vie, ça va être du militantisme, en fait. Du coup, comme il y a vraiment cette question du choix, en tout cas, dans les espaces vegan blancs, je crois qu'il y a vraiment une espèce de distanciation, en fait, comme si les gens, en fait, c'est complètement de l'objectification, quoi. On les choisit en tant qu'exemple et on les choisit comme des triggers, des choses qui vont faire un déclic en termes de choc mental. Et ça, c'est complètement réifiant, en fait, et pour les animaux, et pour les personnes noires, en l'occurrence, en fait. Et aussi, donc, deuxième point, c'est que c'est marrant, non, c'est pas du tout marrant, mais c'est ironique, en fait, de constater que c'est le seul moment où les personnes racisées sont invitées à rentrer en discussion, en fait, dans les espaces vegan et antispécistes. C'est le moment où elles sont représentées de la manière la plus violente, la plus animalisée, la plus violente et la plus déshumanisée, et la plus méprisante, en fait, qu'on puisse imaginer. Ils peuvent même pas répondre, en fait. Il y a pas de dialogue, en fait, qui est installé à ce moment-là. Donc ça, c'est moi, c'est pas du tout une tactique ou une technique que je valoriserais aujourd'hui. et où ça a été clairement dénoncé en tout cas. Et ça ne fait que prouver pour moi qu'en fait, il faut arrêter de militer avec des véganes blancs en fait. Enfin, c'est... non mais c'est... Enfin, c'est vrai. Ou alors on se dit, notre but c'est de déconstruire le véganisme blanc. Mais en tout cas, moi c'est pas mon but en fait. Il y a peut-être des gens qui font ça et c'est super, mais en fait, il faut construire des espaces de dialogue entre personnes racisées sur des thématiques véganes, antispécistes, et même s'il faut redéfinir nos termes à nous, parce qu'en fait, l'animalité, on la connaît en fait dans notre histoire. Ça nous est pas étranger, tu vois, quand tu dis que t'as du mal à te rattacher à ça et tout, c'est parce qu'en fait on a été complètement, on nous a aussi divisé en fait des animaux, on a essayé de nous faire intégrer le message selon lequel on était fondamentalement différents des animaux, en nous insultant nous-mêmes en fait d'animaux, donc ça c'est le sujet de l'animalisation en général, mais en tout cas en tant que personne racisée je pense qu'on a beaucoup plus de choses à dire en fait que les blancs sur l'animalité, sur l'historicité de l'espèce, sur où on se situe là-dedans et sur quels sont les liens en fait politiques et révolutionnaires qu'on peut faire à partir d'une solidarité interespèce en fait.
En fait, il suffit de lire les ouvrages scientifiques du 19e siècle pour voir à quel point justement la frontière en fait entre l'humain et l'animal non humain en fait s'est déplacée au fil du temps et que en fait selon le moment historique, on était d'un côté ou de l'autre. Donc on voit bien en fait que cette frontière là est aussi artificielle et que en fait à un moment donné, le fait que la frontière ait été placée juste à la limite en fait de la blanchité nous faisait que en fait on n'était pas du bon côté et donc du coup, cette solidarité avec les êtres en fait qui sont maltraités, on ne peut que l'avoir parce qu'en fait si on l'a pas éprouvé nous-mêmes, nos ancêtres l'ont éprouvé quoi.
Et puis je pense qu'on je sais pas pour vous, mais moi on m'a déjà fait des remarques complètement où on m'associe complètement à un animal, enfin des animaux quoi. C'est le lot en plus en étant une femme dans mon cas. Ouais. Alors là c'est le top du top quoi. Enfin voilà, lionne, crinière, chienne, truie, vache. Il y a un livre qui a été fait, je sais plus c'est quoi le nom de la personne, mais c'est une femme qui a écrit Femme animale et en fait elle fait que des portraits. Hyène, et en fait tu te rends compte de le livre fait genre 80 pages quoi, donc il y a beaucoup de termes et chaque terme en fait elle fait comme un dictionnaire, elle donne une définition mais du coup un peu ironique avec un point de vue féminin quoi sur la chose, féministe je sais pas, mais en tout cas c'est hyper intéressant de voir la large palette de nuances, de vocabulaire en fait qu'on a pu nous accoler en termes animalisants quoi, et moi à mon niveau, et j'ai que 27 ans quoi, j'ai déjà vécu. Donc, je me doute bien que, en fait, sur une époque, enfin, sur une linéarité beaucoup plus large en termes d'histoire, ça a complètement fait partie de notre identité, en fait. Pour moi, ça fait partie de ma construction et de ma déconstruction, en fait, en termes raciaux, que de comprendre c'est quoi le sauvage, c'est quoi l'indomptable, c'est quoi là-bas, en fait, l'exotique là-bas qu'on va. Parce qu'il y a vraiment ça, en fait, dans le discours animalisant aujourd'hui, toujours hyper présent. C'est un discours colonisateur en fait, c'est un discours de colon, de on va essayer d'exterminer l'animalité qui est en vous, ou alors on va l'exotiser et la valoriser en fait, et c'est ce qui se passe dans l'exemple qu'on a mentionné tout à l'heure en juxtaposant des images en fait. C'est de revaloriser cette animalité quand ça leur sert, et de par contre la punir quand c'est plus ok quoi.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Salut, c'est Victoire Tuaillon. Ces derniers mois, avec mon équipe, on a travaillé sur une série exceptionnelle. Ça s'appelle « 20 000 lieues sous ma chair ». L'autrice, Caroline Potier, a exhumé des cassettes audio qu'elle enregistrait pour sa meilleure amie lorsqu'elles étaient ados et qu'elle traversait l'enfer, les violences que lui infligeait son père. À partir de son histoire, Caroline Potier, devenue journaliste, a mené l'enquête. Comment on pourrait éradiquer l'inceste ? C'est beau, c'est intelligent, c'est bouleversant et je pèse mes mots, c'est d'utilité public. Pour continuer à sortir de l'océan du déni, écoutez 20 000 lieues sous ma chair, dans le cœur sur la table.
Comment devenir un ou une meilleure alliée de la lutte antiraciste ? Comment se confronter à ses privilèges en tant que personne blanche ? Chez Binge Audio Edition, on sort Mécanique du privilège blanc, un livre d'éducation antiraciste pour proposer des outils concrets à toute personne qui souhaite se confronter à ses privilèges. Le livre est signé Estelle Depri, qui anime depuis des années la page Instagram Semblant de Rien, sur laquelle elle produit du contenu antiraciste qui permet à chacun et chacune de devenir un meilleur allié. Vous êtes déjà plus de 2000 à avoir précommandé. Grâce à vous, on a dépassé notre objectif. Il ne vous reste que quelques jours pour commander vous aussi votre exemplaire. Rendez-vous sur Ulule, ulule.com/mécanique-du-privilège-blanc ou sur le compte Instagram de Binge Audio Édition.
On l'a évoqué souvent dans ce podcast parce que c'est une question qu'on pose aussi à nos invités, la question de cette racialisation des corps, notamment des femmes, hein, quand le racisme et le sexisme interagissent, et de l'hypersexualisation. On en a parlé dans un épisode qui s'appelle « La geisha, la panthère et la gaze », enfin je ne sais plus dans quel ordre, avec Faïza Ghen. Comment nos corps sont perçus dans l'espace public. Et toi, tu en parles dans ton travail aussi, le lien entre l'animalisation, la racialisation et comment il est appliqué aux femmes, mais aussi aux hommes dans d'autres sphères. Est-ce que toi aussi t'as ressenti cela? Enfin, tu nous as dit tous ces mots que tu enfin, c'est dans le langage courant en fait tout ça.
Ah oui, c'est complètement dans le langage courant et même ouais, je sais pas, dans le vocabulaire en tout cas pornographique et très sexuel, c'est hyper présent quoi. Après, je suis pas en train de dire qu'il faut qu'on épure totalement nos termes pour arriver à un truc hyper bienveillant et harmonieux, etc. Mais en tout cas, de questionner ces termes en fait et de voir qu'est-ce qui révèle de notre construction du corps, mais donc pas du corps humain, parce qu'en fait faire cette distinction entre humain et animaux, pareil, c'est un peu facile quoi, enfin je trouve, c'est pour ça que je souscris pas au terme du véganisme blanc quoi, et que plutôt du côté végane décolonial, antiraciste, intersectionnel, je sais pas trop comment on pourrait l'appeler. Là on parle de corps qu'on situe en fait, donc de quel type de corps on parle, et du coup dans le vocabulaire en tout cas sexuel, pornographique, etc., c'est hyper présent en fait. Mais en fait, je trouve que c'est hyper présent parce que ça pourrait aussi être valorisé, parce que comme, en fait, disons, la blanchité, une énorme partie de la culture européenne et occidentale s'est basée sur la destruction de son animalité, en fait. Il y avait vraiment ça, la distanciation, la mise à distance et la destruction de son animalité. Bah, en fait, il y a quelque chose d'assez excitant, finalement, à l'intérieur. Non, mais tu vois, c'est qu'on l'a tellement refoulé qu'il y a quelque chose à l'intérieur qui est honteux, qui est indicible, qu'on ressort, en fait, uniquement dans les espaces de porno mainstream et dans l'industrie du sexe lourde et dégueulasse, quoi. Alors que je pense que nous, encore une fois, on pourrait complètement s'en saisir. Et moi, je le dis, en fait, oui, je suis un animal. Oui, je peux manger comme un animal, baiser comme un animal. Et en fait, c'est trop cool. Parce qu'en fait, non, mais oui, parce qu'en fait, à un endroit, on est des animaux, quoi. Et on peut complètement porter ce discours. J'ai envie dire encore plus en fait à notre niveau, encore une fois, enfin, ça nous concerne vraiment corporellement et charnellement, vraiment plus fort, je trouve, que la plupart des gens qui parlent de véganisme pour sauver les bébés baleines quoi.
Bah justement, dans la perception qu'on peut avoir du véganisme le plus mainstream, il y a une espèce de posture de supériorité morale qui laisse entendre à certaines personnes minoritaires que leurs traditions culinaires, religieuses, bah en fait sont antagonistes avec cette possibilité justement d'embrasser le véganisme. Je vais citer une intervention que tu as faite au Climate Justice Camp à Bruxelles en septembre 2019. Tu disais « Les discours individuels et culpabilisants dont les écolos véganes sont champions ne font que certifier aux personnes racisées qu'elles n'ont pas leur place dans cette lutte. Pire, ils reproduisent une attitude coloniale qui consiste à se sauver soi-même par des actions bonnes, tandis que les autres sont de toute façon ignorants et n'ont pas réellement compris l'importance de donner des droits aux animaux. » Et donc il y a un peu dans cette idée-là, mais nous c'est parce qu'en fait on est un peu, c'est implicite, mais parce qu'on est les Lumières, on a compris cette idée du droit des gens, et qu'en fait les autres ils savent pas trop que les animaux faut les traiter bien. Et en fait, comment justement tu peux faire en sorte que on sorte de cette récupération et qui, d'une certaine manière, associe un type de pensée avec la compréhension des droits des animaux.
Trop bien, tu parles trop bien. C'est trop bien, comme tu clarifies, tu synthétises, je suis là. Ok, trop cool. Je crois que le point de départ, en tout cas, de ça, c'est de se dire le véganisme est... Le véganisme, l'antispécisme, en tout cas, le véganisme n'appartient à aucun groupe, en fait. Il ne peut pas appartenir à un groupe. On ne peut pas... C'est pas possible, c'est une des... D'ailleurs, aucune lutte ne peut appartenir à un groupe, mais en tout cas, disons qu'elle concerne plutôt un groupe. Le véganisme, en l'occurrence, concerne les animaux non humains. A priori, c'est quelque chose qui peut être saisi, en fait, par une pluralité de personnes, de corps, de groupes et d'histoires. Du coup, ce phénomène de privatisation, de se dire on va essayer de ramener ça à de la blanchité, moi, ça, juste dans les faits, en fait, c'est pas possible, premièrement. Et je crois qu'il y a aussi, voilà, dans l'extrait que t'as lu, il y avait quelque chose de l'ordre de la pureté, en fait. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je constate aussi dans les sphères véganes blanches et radicales, etc. Et moi aussi, j'y ai souscrit au début, quand tu rentres dedans, t'es vraiment dans un truc où tu changes tout, quoi. Tu changes tous tes codes, parce qu'en fait, devenir végane, c'est quand même... C'est remettre en question toute une tradition culinaire, c'est remettre en question... Et ça te rend visible, en fait, de... l'immensité en fait du truc, parce que les animaux sont exploités absolument de partout, et je parle pas que dans la nourriture, quoi. Ça te ramène à ton histoire personnelle, ça te ramène à tes traditions, à tes trucs religieux. Enfin voilà, moi ça a été énorme. Et du coup de faire ça, en tout cas à mon niveau, ça n'était pas dans un idéal, ça n'était pas nécessairement dans un idéal de pureté, mais en tout cas en étant dans cette lutte, il y a tellement une espèce de radicalité et de switch en fait mental énorme que du coup t'en viens à quelque chose de très pur, quoi. Donc voilà, moi j'en suis venue à lire la totalité de mes étiquettes, tu vois, par exemple, de ce que j'achetais. Avant je le faisais pas du tout, et que des fois de me dire il y avait des trucs de mouton dans du dentifrice ou du lait dans des chips, quoi. J'étais mais what the fuck. Et du coup ça t'emmène en fait dans un degré de minutie et de où tu je sais pas, c'est presque névrotique, quoi. Enfin, en tout cas, ça peut aller dans ce niveau-là. Et ça peut être aussi satisfaisant, hein, par ailleurs. Et je crois que c'est là, en fait, que moi, je perds les véganes blancs, parce qu'ils sont dans un truc de pureté morale, en fait. Et ça, pour moi, ça ne marche dans aucune lutte, d'ailleurs, en fait. La pureté morale, en fait, elle ne m'intéresse pas tant, en fait. C'est plutôt, encore une fois, comment on peut broder ça à partir de nos expériences et de nos vécus et de nos corps. Donc, presque, en fait, quand quelqu'un me dit « je suis végane », j'ai pas envie de dire « est-ce que tu manges des animaux ou pas ?» Je m'en fous, mais tu vois, c'est pas tant dans la consommation. Voilà, c'est ça. Le véganisme, en tout cas mainstream, comme il est présenté aujourd'hui, c'est un truc de consommation, en fait. Faudrait consommer mieux, plus éthique, du coup, bah, plus local, plus machin, moins, pas d'animaux, pas de viande, et en fait, pour moi, on reste que dans le registre de la consommation. Et en fait, moi, dans un mindset anticapitaliste, anarchiste, ou whatever, je m'en fous, en fait. De toute façon, je veux pas consommer, quoi. Enfin, je veux produire à partir d'ailleurs et penser à partir d'ailleurs. Et en fait, qu'il y ait des animaux ou pas, c'est là, en fait, où ça m'intéresse. Du coup, voilà, la pureté morale, pour moi, elle se situe dans cette quête, en fait, assez radicale de l'absolue disparition de toute exploitation animale, comme si c'était possible, déjà. Et deuxièmement, elle reste, en fait, dans un truc individuel de consommation, typiquement le tri des déchets, tu vois. Je vais pas dire, ça sert à rien de trier ces déchets, mais en tout cas, c'est pas là, moi, que je perçois un truc subversif, politique, et qui me renverse, en fait, dans le véganisme. Pas du tout.
Moi, je vois que dans ta démarche, il y a vraiment une question de, ce n'est pas, c'est pas de remplacer tous tes vêtements en cuir par des vêtements véganes ou de consommer encore plus, ouais. Mais c'est le soin que tu apportes à comment tu vis chaque jour et comment tu vas continuer à vivre et en prenant soin des autres. Et je voudrais qu'on écoute un son.
I'm really interested in the work that you're doing around food, because I think that is one of the next major arenas of struggle. And I am sometimes really disappointed that many of us can assume that we are these radical activists, but we don't know how to reflect on the food that we put in our own bodies. We don't realize the extent to which we are implicated in the whole process of capitalism by participating uncritically in the food politics offered us by the great corporations.
Alors, c'était une intervention d'Angela Davis en 2012 sur le véganisme en conversation avec l'activiste Grace Lee Boggs. Donc, elle dit que la nourriture est l'une de nos prochaines luttes globales et que souvent, il y a des personnes qui se disent activistes radicales, mais qui ne réfléchissent pas sur la nourriture qu'elles mettent dans leur corps et opposent peu de critiques aux propositions des multinationales de l'agroalimentaire. Et donc, plus tard dans la conversation, elle dit qu'elle ne mentionne pas souvent qu'elle est végane, mais que ça a évolué. Est-ce que toi, Myriam, tu as du mal à dire que t'es végane, ou est-ce que dans ta famille, on va penser que t'es chiante pour les menus? Il y a ce terme que je trouve assez drôle, en anglais, ils appellent ça « killjoy ». Donc, killjoy, c'est la personne qui va tuer la joie. Donc, c'est la féministe qui parle de sexisme au dîner, la personne qui va défendre les personnes, enfin, qui va mettre le doigt sur le racisme, etc. Est-ce que toi, t'es une killjoy chez toi?
Je l'étais, je pense. Non, mais quand t'es féministe antiraciste, tu rajoutes vegan, parce que, enfin bref,
personne t'invite.
Ouais, c'est mort, quoi. Non, aucune soirée.
Non, je rigole.
Non, mais je crois que dans ma famille, oui, mais j'imagine que c'est un processus qui marche en fait pour toutes les luttes, quoi. Une fois que tu te politises sur une lutte et qu'on met des lunettes, tu as vraiment ce truc de lunettes féministes, lunettes antiraciste. En fait, c'est difficile de rentrer chez toi et d'enlever les lunettes, quoi, et de dire bah c'est bon. L'espace en fait est complètement disponible pour toutes les violences possibles et je peux pas du tout les détecter, quoi. Donc pour le véganisme, c'était quand même assez énorme parce qu'en fait, moi, 80, peut-être 70% de l'alimentation au quotidien était basée non pas nécessairement sur la viande, mais sur les produits laitiers et un peu le poisson, quoi. Donc de remettre ça en cause à l'intérieur d'un espace domestique qui est aussi un espace de repos en fait pour les militants, enfin certaines militantes. Moi en tout cas ça a pu l'être de voilà quand je sors un peu de l'agitation de tous les événements, toutes les luttes en fait. Quand je rentre chez moi, je vois ma mère, je vois mes sœurs en fait. C'est un moment où on est, où ça me repose en tout cas à certains endroits. Et donc de me dire que là aussi je devrais lutter, c'était assez chiant. Mais je crois que la Killjoy a plutôt bien réussi à bring back the joy, parce que en fait, et c'est ça aussi, je pense, qui est important, c'est de ramener en fait des récits joyeux et positifs en fait du véganisme, parce qu'on a toujours l'impression que c'est un affront auprès de nos familles, c'est un affront auprès du monde, c'est super dur de trouver des restos, c'est super dur de trouver des endroits, et en fait, encore une fois, comme la blanchité, le fait de dire ça en fait ne fait que renforcer l'idée, enfin le préjugé selon lequel ça existe quoi. Et moi, en tout cas, à mon niveau, par exemple, quand j'ai commencé à être végane, donc c'était il y a assez longtemps en fait. Ma mère est aujourd'hui quasiment végétarienne en fait, alors que bon, j'ai un petit peu fait de prosélytisme, mais pas tant quoi. Enfin, j'arrivais pas dans cette idéologie là quoi. C'est juste en fait, elle voyait tout ce que je mangeais, elle était là, mais c'est quoi ça? Je connais pas. Comment on cuisine ça? Et c'est ça qui est intéressant aussi même pour nous. Donc dans mes traditions culinaires tunisiennes et marocaines en fait, végétaliser des plats c'était super facile. Et ça nous faisait aussi connecter avec ces anciens légumes, ces légumes racines, ces choses là qu'on met de côté ou qui sont considérées comme l'accompagnement. Et ben en fait, quand tu le revalorises en tant que plat, tu reconnectes aussi avec des traditions culinaires végétales en fait qui existent, mais qu'on a complètement abandonné à cause de l'introduction coloniale, au passage, de la viande comme une nécessité nutritionnelle quotidienne, quoi. Et en fait, depuis, pour la petite anecdote, depuis quelques années, en fait, chez dans ma famille, on fait que des Noëls véganes, quoi. Mmh. Et c'est super bon, et c'est super cool, et t'as pas ce truc où t'es super lourd après, où t'es, tu vois, les gros repas de Noël, quoi, qui sont un peu une abomination, je trouve. Et le Ramadan, c'est pareil, tu vois. On faisait le Ramadan avec une grosse présence de viande, d'œufs, etc. Et en fait, moi, comme je disais que je suis végane, et ben en fait, on faisait différemment. Et c'était nutritionnellement, en fait, tu sentais que ça apportait quelque chose au niveau de la découverte d'aliments. Tu sentais que ça apportait quelque chose. Et au final, c'était plutôt la joie, quoi. Et ma avant-hier, je parlais avec une amie qui racontait en fait son vécu de personne végane aussi nord-africaine dont le père est musulman. Et elle disait en fait que paradoxalement, ça l'avait rapprochée de son père parce que de fait, elle d'avoir choisi en fait cette éthique, encore une fois assez, en tout cas dans la façon dont elle le pratique, c'était assez radicale et imperméable, et elle avait choisi quoi, elle se tenait à ses choix quoi, elle avait décidé que en fait l'exploitation animale n'avait plus de, enfin ne pouvait pas avoir de place dans sa vie au quotidien. Et son père, en fait, elle s'attendait à ce qu'il la juge, à ce que ça passe hyper mal, enfin que ce soit complètement catastrophique. Et au final, il s'est senti rapproché d'elle parce que il y avait cette espèce de rigidité morale, en fait, dans un certain sens, qui lui, en fait, le ramenait aussi à sa religion, en fait, d'avoir une structure éthique au quotidien. Ça les avait finalement, ça les avait rapprochés. Et lui, après, il me disait qu'il l'appelait pour lui dire ah j'ai trouvé ça comme recette, c'est trop bien. Donc voilà, je pense qu'aussi on manque en fait de récits de joie, de récits de communauté et de récits de redécouverte de nos propres traditions en fait à travers le véganisme.
Et moi je pense que ce qui est intéressant dans ce que tu apportes, parce que tu as les deux pieds sur le terrain et aussi les deux pieds dans le monde académique, de l'écriture, des idées, etc., c'est que tu nous offres une façon très concrète d'entrer dans le sujet, c'est-à-dire que tu vas nous proposer des cas très concrets. Et il y a aussi un sujet que tu abordes, c'est la question de l'interconnexion des luttes pour la justice sociale en environnementale. Je pense que ça, c'est très important de voir comment ça s'articule vraiment dans nos quotidiens, que ce soit pas juste un truc ultra abstrait et qu'en fait on sait pas comment le transcrire dans nos actes de tous les jours. Dans l'intervention au Climate Justice Camp, Tu demandes, on peut légitimement se demander pourquoi on voudrait donner des droits aux animaux quand on est harcelé par la police, quand on est victime d'inceste dans sa famille. En général, donner des droits aux animaux est vu comme une atteinte à la dignité humaine, car nous-mêmes n'en bénéficions pas. Et tu dénonces cette hiérarchie des luttes, en fait, la question que, enfin, alors qu'on sait bien que tout est lié dans ce monde, mais le fait de refuser de reconnaître des droits humains, on reconnaît non plus pas le traitement de la faune et de la flore dans une logique d'exploitation intensive. Donc comment toi tu fais pour tout essayer de tout mouliner dans ta machine à toi personnelle et faire ta sauce?
Je pense que je suis hyper active et que je commence plein de trucs sans les finir tout le temps, quoi. Je suis le pied entre plein de trucs et c'est pas du tout agréable. Donc des fois j'aimerais bien être moins justement à tout mouliner en même temps. Mais en tout cas, par rapport à ce que tu viens de dire spécifiquement, moi ce qui m'a vraiment aidé à un moment donné, c'est de sortir en fait de cette vision de l'humanisme. En fait, moi il y a vraiment quelque chose conceptuellement où je me suis dit, je peux pas transposer ma vision de l'humanisme en fait au reste du monde, quoi, en me disant il faut que les animaux bénéficient des mêmes droits que nous. Il faut, en fait, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la C'est comme un cercle concentrique, tu vois. Donc toi, t'es au milieu et en fait, tu dois ramener toutes les autres minorités à toi pour qu'elles bénéficient des pleins droits, en fait. Et c'est ça aussi que je dénonçais quand je parlais de du truc très individualisant et libéral, en fait, du véganisme. Et en fait, d'abandonner ça, de me dire, mais en fait, moi, ça m'intéresse pas que des animaux aient les mêmes droits que moi. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est de voir quelle relation, en fait, aujourd'hui, j'engage avec eux et quelle est ma complicité, pas nécessairement ma responsabilité, mais ma complicité dans le système spéciste, en fait, ancré depuis des décennies. Donc ça, tu es l'humanisme. Enfin moi, c'est vraiment le truc qui m'a sauvée. Je suis pas du tout humaniste et je considère qu'au contraire, être féministe, écoféministe, etc., c'est une façon de dévier en tout cas de l'humanisme qui prévaut encore. Et aussi, en fait, ça nous apprend nous à moins vouloir être pleinement humaine et humain. Il y a vraiment ce truc de dire vous devez avoir une dignité humaine, vous devez avoir des droits humains. Vous n'êtes pas des animaux. Enfin, tu vois, c'est ce message-là qui revient en fait. Vous êtes mieux que ça, quoi. Et ça reprend en fait ce truc de cercle concentrique où en fait au centre t'as l'homme cis blanc valide, etc. Et puis tous les autres, en fait, ils devraient, pour accéder à la pleine humanité, être plus proches en fait de cet idéal. Du coup, moi, j'ai complètement essayé en tout cas de déconstruire ça, en termes conceptuels. Et après, en termes plus concrets. Je crois que ce truc de dire il y a des choses qui sont plus urgentes que d'autres, parce que moi c'est ça qu'on me disait en général, oui mais en fait comment tu veux qu'on lutte pour les animaux, on est déjà en train de lutter pour notre propre survie dans nos espaces, comme tu dis, la présence de la police, la violence en fait, la violence de nos vécus au quotidien, quoi. Et ce qui m'a permis de mieux comprendre les liens en fait que je pouvais faire entre les deux, c'était notamment c'est l'afroécologiste qui en parle vraiment vraiment très bien. Faut la suivre, elle a fait un travail beaucoup plus rigoureux que le mien, je trouve, et j'engraine vraiment les personnes à aller voir ce qu'elle produit. Mais du coup, elle explique que en fait, par exemple, dans les communautés afro-américaines aujourd'hui. Et c'est pareil en France, sauf qu'en fait, comme on n'a pas de statistiques raciales, on ne peut pas savoir, mais je pense que c'est la même chose en France. La consommation, notamment animale, la consommation de protéines animales et de graisses, en fait, en général, est une violence perpétrée sur des populations racisées et pauvres, en fait, dans les quartiers principalement, qui fait qu'elles ont des espérances de vie beaucoup plus courtes, des maladies cardiovasculaires beaucoup plus présentes, et des ravages, en fait, au sein de nos communautés. Donc, en fait, tout ça pour dire que le véganisme, pas juste sauver les animaux, en fait, c'est aussi nous sauver nous-mêmes, parce qu'en fait, nous, enfin, quand je dis nous, là, je parle vraiment en tant que meuf de quartier, quoi, les endroits de sociabilisation, les endroits où on mange, les endroits cool, en fait, c'est les endroits qui nous servent la merde du capital, en fait. Les carcasses de poulets les plus dégueulasses, les choses qui sont immangeables, en fait. Qui, au passage, étaient aussi les restes des blancs pendant l'époque coloniale, qui donnait ça à leurs esclaves, quoi, en fait. C'est juste que c'est devenu de la soul food, donc la nourriture, je sais pas comment on pourrait dire ça, de l'âme, mais nourriture en tout cas identitaire, parce qu'on a su, en fait, la transformer et en faire quelque chose d'hyper beau, quoi. On a su la sublimer. Donc c'est assez intéressant de voir que des plats typiques, en fait, de certaines cultures sont, en fait, issus directement des déchets, en fait, colonisateurs. Mais c'est en même temps hyper touchy, tu vois, de parler de ça, de dire, en fait, vous devez quitter en fait vos traditions culinaires culturelles pour embrasser un idéal de véganisme, parce qu'en fait, ça vous tue. Et en fait, moi, ce que je trouve, comme tu dis, beaucoup plus concret, c'est juste les chiffres et nos réalités, quoi. Moi, quand j'ai grandi, c'était pour être cool, enfin voilà, où il fallait aller, c'était le kebab, quoi. Et en fait, quand tu regardes ce qu'il y a dans un kebab, ça fait flipper, quoi. Et j'ai énormément de personnes autour de moi dans ces quartiers-là, en tout cas, qui sont victimes de cancer, de maladies cardiovasculaires. Elle raconte l'afroécologiste que dans tous ces entretiens, la plupart des gens ont leurs parents qui sont morts avant 50 ans, quoi. Et là, on parle spécifiquement, en fait, de communautés très ciblées. Et l'Aigle Africa a écrit un bouquin qui s'appelle Nutricide et qui parle exactement de ça. Et en fait, c'est ce concept-là de nutricide, en fait, moi, qui me parle. Il y a un génocide, en fait, lent, qui est fait des populations les plus marginales, les plus oppressées en termes de nourriture, en nous refilant, en fait, la merde animale, les sous-produits de l'industrie animale, en fait. Donc, ça nous donne toutes les raisons, en fait, de lutter pour ça, parce que c'est nous et notre dignité, si on veut encore en parler de dignité, qu'on revalorise, en fait, à travers ça. Et pourquoi, en fait, bien se nourrir et être en bonne santé, ça serait un truc de blanc, enfin, tu vois.
Et tu as dit, et en plus, ce que je trouve intéressant, c'est que, enfin, ce que je constate, par exemple, dans la nutrition bien-être, c'est comment, en fait, on réhabilite des plantes qui, en fait, étaient très, très communes dans les usages précoloniaux. Enfin, je pense, par exemple, au moringa. C'est un truc qu'on trouve beaucoup en Afrique de l'Ouest. En Afrique de l'Ouest, c'est une feuille, en fait, qui pousse notamment dans les zones où c'est marrant, parce que ça compense beaucoup, en fait, l'absence de protéines ou de fer. Et en fait, ça pousse beaucoup dans les zones où les gens mangeaient très, très peu de viande avant la colonisation. Et en fait, ça a complètement disparu des usages. Et maintenant, en fait, tu les retrouves dans les boutiques bio sous forme de poudre. Alors que franchement, ma mère, elle me dit, on les ramasse partout, en fait. Du coup, enfin, moi, j'ai des problèmes d'anémie. Et en fait, on me dit, ah, faut que tu prennes
du moringa et tout. Et en fait, je me suis rendu compte que ma tante, elle pouvait m'envoyer des caisses de moringa parce qu'en fait, elle les ramasse partout et que du coup, maintenant, c'est exploité par des industries occidentales. Alors, et que ça a disparu même de... Avant, c'était cuisiné, en fait, sous forme de sauce, etc. Ça a même disparu de la cuisine la plus commune parce qu'en fait, le référent de la bonne nourriture, c'est le référent occidental. Et je trouve que c'est hyper intéressant de voir que finalement, les gens compensaient l'absence de viande avec des sources naturelles et que ces usages-là ont été complètement détruits par les invasions et qu'en fait, on doit se reconnecter aussi avec des choses qui ne sont pas si éloignées de nous que ça.
Moi, je vois aussi dans les superfoods, il y a énormément de trucs asiatiques.
Ouais.
Genre les bites goji, il y en avait plein dans
avant,
les bouillons de ma mère.
Avant, c'était le ginseng, tu te rappelles.
Ah ouais,
le ginseng. Vraiment, mais le truc...
Même les écorces de mangoustan. Enfin bon, il y a énormément de trucs qui reviennent. Et en fait, moi, des fois, je me dis, mais ma mère... Enfin, moi, je buvais ça quand j'étais petite. Elle me forçait. J'étais là... Mais enfin, bon, après, maintenant, je le fais, tu vois, enfin, pour mes enfants.
Et... les pauvres.
et aussi... En temps de pandémie, il y a eu, tu sais, un renforcement de cette idée que les personnes chinoises, elles mangeaient n'importe quoi, les wet markets, donc les marchés, on va dire mouillés, parce que, enfin, tout est vendu dans des grands bacs, enfin, c'est des animaux vivants, etc. On nous a fait croire que c'était là que tout avait commencé. En fait, on sait toujours pas en fait comment ça s'est passé, le virus, etc. Alors il y a des soupçons, mais enfin on entend que c'est des labos. Enfin, en fait, on ne sait pas.
Mmh.
Et il y a vraiment ce renforcement de oui, il y a les chauves-souris, puis il y a les pangolins.
Oui, ils mangent des trucs bizarres.
Voilà,
c'est toujours le préjugé.
Et donc cette animalité, elle a été renforcée de ce truc de ah, vous pouvez pas vous détacher de tout ça et vous êtes arriéré. Il y a vraiment une il faut dépasser en fait ces narrations là et reprendre confiance en soi, et je pense que c'est ça que tu disais aussi de voilà, il faut qu'on reprenne confiance en nous pour vraiment nous reconnecter avec ce qui est important, donc à la fois l'héritage, mais et que c'est un héritage pas défini par la blanchité, mais par ce qu'on a reçu en ce qui nous a été transmis, et de pouvoir tu vois, le regarder sans en essayant de nous détacher de toutes ces injonctions, tous ces récits qui sont très biaisés et qui occupent l'espace qu'on a aujourd'hui. Et c'est un travail vraiment grand à faire, mais c'est vrai que des espaces non mixtes ou bien des espaces en tout cas où on met ça en commun. Et bien, c'est important.
Ouais, puis en plus, c'est vrai qu'on est... Enfin, je trouve aussi que dans les plats traditionnels qui sont cuisinés par des gens qui sont issus de cultures minoritaires, il y a aussi beaucoup de comment dire, un regard en fait extrêmement qui suscite vachement de honte. C'est-à-dire que comme en fait ils n'ont pas un aspect qui est gracieux au regard de ce qu'on considère comme étant un beau plat, il y a aussi beaucoup de gens qui ont mis de côté leur pratique culinaire parce que bah, soit l'odeur ne correspondait pas à ce qui est considéré comme de la bonne alimentation, soit l'aspect en fait était trop bizarre au regard de, encore une fois, cette espèce de formatage qu'on peut avoir sur ce qu'est un bon plat qui doit aussi être joli, mais toujours avec des canons de beauté. Donc c'est aussi réhabiliter en fait ce qu'on considère comme étant pas gracieux pour se dire qu'en fait c'est quand même bon pour nous, c'est meilleur pour nous que certaines choses qui peuvent avoir un aspect plus joli.
Et puis cette accusation évidemment extrêmement raciste que voilà, c'est comme selon lesquelles les autres cultures, c'est-à-dire les cultures extra-occidentales, quoi, seraient très carnées, mangeraient n'importe quoi, seraient pas propres aussi. Il y a beaucoup ce truc c'est pas cuisiné proprement, factuellement en fait c'est faux, parce que quand on regarde en France, enfin moi vraiment dans une tradition culinaire française, mais enfin je vais assez souvent au restaurant, enfin c'est délirant quoi, la surprésence de protéines animales, de corps, de gras, de viande, de poisson, huîtres, je sais pas, les plats typiques en fait français, de la gastronomie française, sont absolument tous en fait carnés et complètement basés sur la destruction des corps animaux, quoi. C'est pour ça que c'est dur aussi, je pense, pour les blancs, parce que moi je suis pas en train de dire c'est dur pour les blancs, mon dieu, c'est horrible. Non, mais c'est pour ça, je pense qu'il y a vraiment quelque chose de, on veut se sauver en fait dans la façon dont ils pratiquent le véganisme, parce qu'il y a pas cette culture en fait en arrière base en fait qui peut venir dire bah voilà, nous on a des plantes traditionnelles, on a des savoirs, on a des héritages ancestraux, on peut s'en raccrocher, parce qu'en fait dans une culture en tout cas française, c'est difficile en fait de trouver des des traditions culinaires végétales dans lesquelles on peut se reconnaître et qui justement ne renvoient pas à ce que tu dis. Tu vois, quelque chose de moche, d'un peu éclaté. Enfin, tu vois, je pense à, je sais pas, à de la purée, des gratins et tout. C'est pas de la vraie nourriture, quoi. Mm-hmm. Tu vois, c'est pas des trucs classe, quoi.
Ouais, exactement.
Et en fait, on en revient à un truc de classe aussi, quoi.
Ouais, c'est un truc de pauvre. Il y a une nourriture raffinée et une nourriture, en fait, brute, qui n'est pas considérée comme étant à la hauteur de certaines exigences qu'on doit avoir quand on est dans la classe sociale. On a malheureusement plus le temps. On a plein de questions à te poser, mais malheureusement, on n'a plus beaucoup de temps. Non, c'était super intéressant. Donc, c'est la fin de ce numéro de Kif Taras où on a eu la joie d'échanger avec notre invitée Myriam Bahafou.
Partagez.
Merci beaucoup.
Merci.
Vous pouvez la retrouver en préface du livre Le féminisme ou la mort de Françoise Daubonne qui est paru à nouveau en 2020 et aussi dans l'ouvrage collectif Feu, abécédaire des féminismes présents qui paraît en octobre 2021 aux éditions Libertalia. Et tu as aussi un prochain ouvrage à paraître en 2022.
Oui, c'est
voilà,
vrai.
C'est la surprise. C'est ça. En tout cas, on sera heureuse d'en parler avec toi. N'hésitez pas à nous faire part de vos opinions sur l'échange qu'on vient de mener. Voilà, je pense qu'il y a plein de choses à dire. C'est vraiment une intersection très très intéressante qu'on a explorée. Et vraiment, merci Myriam pour ça.
Ouais, merci. Si vous avez des commentaires, des questions, si vous êtes choquée, si vous sentez très concernée, n'hésitez pas à écrire.
On a beaucoup dit blanc.
Ah oui.
Oh là là, trigger
warning blanc.
Attention. Écrivez-nous à kiftaras@binge.audio. Contactez-nous sur les réseaux sociaux en suivant kiftaras, @kiftaras sur Twitter, sur Facebook avec le hashtag kiftaras ou sur Instagram.
Kiftaras est un podcast produit par Binge Audio et réalisé aujourd'hui par Elisa Grenet. Merci beaucoup pour la première réalisation de cette émission. Merci à Naomi Titi pour l'édition. On se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle plongée dans les questions raciales. Merci Grace.
Merci Rokhaya.
Merci Myriam.
Merci à vous.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There are stories and mythology that this country has woven around black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like worried of the police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.